Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 23 ans. Vous me connaissez peut-être sous le nom de Je ne suis pas jolie. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de parentalité, de façon libre et éclairée, dans le nid. Le nid, c'est un endroit intime, où il n'y a pas de vérité ni de jugement. On partage simplement, avec bienveillance, sur ce sujet si controversé qu'est la parentalité. Camille est maman de deux petits garçons, Lou et Charlie. C'est à l'âge de 5 mois que tombe le diagnostic. Lou est atteint de la maladie de Krabbe. Au micro du nid, Camille nous raconte ce parcours difficile et singulier, qui est celui de parents d'enfants porteurs d'un handicap. Puis, nous recevons Anne-Sophie, assistante sociale pour l'association Halte Pousse à Montpellier. Elle nous parle des actions mises en place pour faciliter le quotidien et l'intégration des familles dans la société. Bonjour Camille.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au micro du nid. Est-ce que déjà tu peux nous présenter ta famille ?
Alors ma famille, j'ai mon petit garçon donc, qui s'appelle Lou, qui a 2 ans et demi. Et j'ai un nouveau petit garçon qui est dans la famille depuis 4 mois et qui s'appelle Charlie.
2 garçons.
Et un mari.
3.
3 garçons.
Et à quel moment est-ce que tu as envisagé avec ton mari de fonder une famille ? Comment c'est venu ? Est-ce que tu as toujours su que tu voulais être maman ?
Alors pas du tout. Pendant très très longtemps, j'ai dit que je ne voulais pas d'enfant. Je sais pas, c'est un petit peu comme on dit, un beau matin, je me suis réveillée. Puis en fait, j'en avais envie, on avait fait un petit peu le tour de tout ce qu'on peut faire. En couple à deux, c'est-à-dire on avait voyagé, on était sortis, etc. Et puis là, on avait envie d'un petit peu de valeur ajoutée à nos vies. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est lancé assez rapidement, finalement, à partir du moment où on en avait parlé.
Ouais, la décision
ouais.
A déclenché tout le reste.
C'est ça.
Et comment s'est déroulée ta première grossesse ? Comment ça s'est passé ?
C'était un rêve, vraiment. J'étais sur mon petit nuage pendant 9 mois. Pas de soucis majeurs pendant la grossesse. Aucun souci. Vraiment le bonheur absolu.
C'est bien parce que c'est vrai que les premières grossesses, c'est toujours un peu... On ne sait pas dans quoi on s'embarque. Voilà. Est-ce que l'état de femme enceinte, ça va nous...
Ah, moi, c'est un truc qui me plaît vachement.
Ouais, d'être enceinte, ouais. C'est bien. Et bien, du coup, dans quelles circonstances est-ce que le diagnostic de la maladie de Lou, donc ton premier fils... A-t-il été posé ? Est-ce que c'était à la naissance ? Comment ça s'est passé ?
Alors non, à la naissance, en fait, il est né, comme tous les enfants, il n'y avait absolument rien de décelable, surtout pour nous qui étions donc parents d'un premier enfant. On n'avait pas tellement de points de comparaison, donc pour nous, tout nous paraissait normal, jusqu'à qu'il ait 3 mois et demi. C'est l'âge où on commence à attraper les jouets, etc. Il le faisait depuis quelques jours, et puis on s'est rendu compte qu'il avait envie. Il tendait les bras vers les objets et puis mais qu'il n'y arrivait pas en fait. On voyait qu'il commençait qu'il était raide. Donc à ce moment-là, il était suivi par une kiné pour une petite plagiocéphalie, donc la tête un petit peu plate d'un côté. Et c'est elle la première qui nous a alerté sur le fait qu'il avait des positions qui n'étaient pas des positions d'un enfant de son âge.
D'accord. Oui, vous l'avez vu en termes de motricité. Est-ce que vous avez un ressenti ? Parce que souvent on dit qu'en tant que parent, on ressent certaines choses.
Alors là, pas du tout.
Pas du tout.
Non, pour le coup, pas du tout. C'est vrai que pourtant on avait des petits bébés de son âge qui étaient dans notre entourage. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de différence notable. Et c'est arrivé assez soudainement. Donc ces raideurs-là. Et puis il dormait très très bien la nuit. Mais là, il commençait à pleurer beaucoup.
Ouais.
Et on voyait que c'était des pleurs de douleur et non pas des pleurs de « j'ai besoin de papa ou de maman ». Voilà.
Alors, est-ce qu'on peut expliquer à ceux qui nous écoutent ce qu'est la maladie de Krabbe, du coup, puisque c'est cette maladie qui a été diagnostiquée. Qu'est-ce que c'est pour les personnes qui n'en ont jamais entendu parler ?
Alors, la maladie de Krabbe, c'est une maladie neurodégénérative. En fait, le métabolisme de l'enfant dysfonctionne et donc ce que son métabolisme absorbe et se transforme en fait en déchet qui va abîmer la myéline qui est la gaine qui protège les nerfs, en gros.
D'accord.
Donc ce que nous, on est capable de métaboliser normalement, dans la maladie, ça se transforme en déchet, ça attaque les nerfs et petit à petit, ça grignote tout le corps de l'enfant et ça le fait... Ça lui fait perdre toutes ses facultés l'une après l'autre. Voilà. Donc il y a des formes précoces, donc c'est celle de Lou, c'est-à-dire que les premiers symptômes sont apparus avant l'âge de 6 mois. Il y a des formes plus tardives et plus rarement, il y a aussi des formes adultes qui sont plus rares. Voilà.
Donc c'est pas seulement une maladie qui touche les enfants.
C'est principalement les enfants, mais sinon il y a aussi des adultes qui peuvent être touchés. Et donc chez les enfants à la forme précoce, l'espérance de vie est située entre 2 et 3 ans.
D'accord.
Et vous, vous avez été accompagnée par l'équipe médicale. Comment est-ce que vous avez vécu l'annonce de ce diagnostic? Est-ce que vous avez entendu parler de la maladie?
Alors, la maladie, pas du tout. On savait pas du tout de quoi il s'agissait. On a eu le diagnostic quand il a eu 5 mois, parce que le temps, en fait, de voir les bons professionnels, etc., de passer tous les tests. On était à Paris à l'époque, à l'hôpital Necker. Et en fait, quand on nous a annoncé la maladie, le ciel nous tombe sur la tête. Mais en même temps, c'est des mots qui sonnent pas tellement vrai. On peut pas s'imaginer ce qui va arriver à notre enfant. Et on ne sait pas à quoi s'attendre parce que dans cette maladie-là, les symptômes en fait varient énormément d'un enfant à l'autre. Lou, à cette époque-là, en plus, il était, à part ces raideurs-là qui ont été vite réglées par des médicaments, mais il était visuellement comme tous les autres enfants. Donc on ne pouvait pas s'imaginer qu'il allait perdre son sourire, perdre toutes ses fonctions, en fait, la déglutition, le sourire, etc. C'est des choses qu'on ne pouvait pas imaginer parce que quand on nous l'a annoncé, il était normal, on va dire, d'apparence normale, en tout cas, voilà.
Les équipes médicales, elles ont toujours été honnêtes, entre guillemets, avec vous, en essayant vraiment de vous accompagner pour comprendre ce qui allait se passer.
Alors, c'était là la difficulté, c'est de ne pas savoir justement comment ça va évoluer.
Oui.
Il nous disait que généralement, il allait perdre sa déglutition, son sourire, toute sa motricité. Et eux se sont un petit peu trop avancés finalement sur son diagnostic, puisqu'ils nous avaient annoncé qu'à la fin de l'année 2018, donc quand il allait avoir 1 an et demi, que certainement il serait déjà plus avec nous. Donc nous, on a vécu toute l'année 2018 avec cette idée-là. Et c'est ce qui nous a un petit peu empêché finalement de nous bouger au maximum pour lui, alors qu'aujourd'hui il est encore là et il est plutôt en forme.
Voilà. C'est comme quoi, parfois, le diagnostic médical ne fait pas tout.
Voilà, ils se sont un petit peu trop avancés. C'était pas une question, en plus, à laquelle on avait besoin d'une réponse. La seule chose qu'on savait, c'est qu'ils seraient handicapés, mais c'est un mot très, très large. Il y a beaucoup de handicaps différents, à plein de niveaux différents. Donc, c'était très, très flou et il restait plus qu'à observer, en fait, ce qui allait se passer. Et à l'accompagner du mieux possible sans avoir aucune information, parce que l'hôpital a été bon sur le diagnostic. Ils ont été très rapides pour le coup d'avoir les résultats aussi tôt. On les a eu en 3 semaines en fait, c'est très très rare, donc ils ont été rapides. Mais pour l'accompagnement au quotidien, parce qu'avec la maladie en fait il y a des petits mots de tous les jours, donc chez les enfants qui peuvent être embêtants, et chez Lou, comme il est fragilisé, ça peut prendre des proportions incroyables. Il est en train de sortir une canine, là, il n'a pas dormi depuis 48 heures, aujourd'hui, par exemple. Voilà, c'est des choses auxquelles on ne pense pas du tout. Voilà, c'est des petits à côté. Et là-dessus, les professionnels de santé sont, pour le coup, pas présents.
Oui,
Pas
d'accompagnement.
Non, il n'y a pas tellement d'accompagnement, on se débrouille énormément seul. Et heureusement, avec l'aide de l'association Lueur d'Espoir pour Eden, qu'on a mis beaucoup de temps à contacter, on en parlera peut-être tout à l'heure, parce que classer son enfant dans la catégorie des enfants handicapés, c'est difficile. C'est une étape à franchir, et c'est pour ça qu'on a mis autant de temps à les contacter. Et aujourd'hui, c'est un énorme soutien.
Oui. Comment vous êtes organisée pour accompagner du coup Lou avec ton mari? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est tout le temps présent auprès de lui?
Alors ça s'est fait en 2 temps. Donc comme je disais à l'époque, on était en région parisienne. Moi, le jour où Lou est parti aux urgences, en fait, j'ai quitté le travail un jour entre 12h30 et 2h. Je suis jamais revenue et depuis, je ne travaille plus. Donc je m'occupe de lui à 100%. Mon mari a arrêté de travailler pendant 10 mois. Et puis, on avait déjà le projet, en fait, de redescendre dans le sud, puisque je suis originaire d'ici. Et en fait, on s'est dit, tant qu'il est là, tant pis, on bouge pas, on reste là-haut, il sera auprès des meilleurs professionnels, puisque c'est à Paris. Et puis, et finalement, on s'est dit, mais pourquoi attendre? Faisons-le, descendons. Donc, heureusement, mon mari a trouvé un emploi à la rentrée 2018. Et on est descendu ici. Finalement, l'accompagnement est meilleur. Il y a plus de proximité, il y a plus de soins à domicile qui sont possibles aussi. Donc moi, je m'occupe de lui toute la journée. Mon mari a la possibilité de rentrer tous les midis, donc c'est vrai que c'est aussi un soutien. Et les choses ont changé aussi depuis l'arrivée de son petit frère, puisque là, c'est un grand bonheur, mais c'est une difficulté quand même supplémentaire. Donc pour l'instant, j'ai ou ma maman ou ma belle-sœur qui sont avec moi toute la journée pour m'aider.
Oui. Comment vous, l'entourage s'est positionné quand vous avez appris du coup la maladie de Lou ? Comment est-ce qu'elle est présente pour vous au quotidien ?
Ils ont tous été géniaux, que ce soit la famille ou les amis. Ils se sont tous mobilisés. Ils nous ont tous offert leur aide. Ils se sont pas laissés abattre. Il y a eu un petit moment, effectivement, au tout début, on sait pas où on va, mais il faut y aller, il faut se bouger, il a besoin de nous. On est là. Recevoir de l'amour et de la tendresse et des soins, c'est tout ce dont il a besoin. Donc, tout le monde s'est mobilisé. Il a fallu, nous, qu'on apprenne à s'occuper de lui. Puisqu'avec l'évolution de la maladie, il y a des nouveaux symptômes, des nouvelles pathologies, des nouveaux soins à apporter. Il a fallu que nous, on les apprenne, qu'on soit à l'aise avec et qu'on puisse ensuite expliquer à notre famille et à nos amis comment pouvoir prendre soin de lui.
Ce soutien-là aussi.
Voilà, exactement. Et ils ont sur lui un regard très particulier. On a perdu personne en route, en fait. Et ça, c'est un très beau cadeau qu'on a reçu.
Et par rapport à l'association, du coup, Lueur d'Espoir pour Eden, comment est-ce qu'elle intervient dans vos vies ? Quelle a été l'aide qu'elle a pu vous apporter ?
En fait, je crois que je me suis décidée à la contacter. Ça fait un an et demi maintenant. C'est ça à peu près, un an et demi. Donc, j'ai contacté Morgane, donc la maman de Eden. En fait, elle a énormément, justement, tout ce qui nous manque, en fait, c'est les petits à côté du quotidien pour le confort que les équipes médicales ne savent pas nous apporter parce qu'elles sont spécialisées, elles sont focus sur la maladie et y a plein d'autres petites choses à savoir, que ce soit pour le bain, pour la nourriture, pour les jouets, pour l'éveil, pour énormément de choses. On a mis rapidement plein de petites choses en place. En fait, Morgane et puis Vanessa, la maman de Lisa aussi, sont très présentes à n'importe quel moment, en fait, de la journée, limite de la nuit. Parce que l'hôpital, en fait, n'est pas toujours la réponse. Ouais. Et souvent, n'est souvent pas la réponse.
J'imagine qu'on a des doutes, qu'on a des questionnements, qu'on a envie d'avoir des personnes qui ont pu vivre ou vivent la même chose.
En fait, au départ, on refusait avec mon mari d'être des parents d'enfants handicapés. Mmh. C'est pas du tout comme ça qu'on s'imaginait être un jour, évidemment, parce que ça n'arrive qu'aux autres, parce que notre petit garçon, il n'est pas handicapé, c'est notre petit garçon, il est malade, mais il n'est pas handicapé. On a mis beaucoup de temps, en fait, à utiliser ce mot-là. Et en fait, de voir qu'il y avait des mamans jeunes, modernes, qui ont l'air d'avoir une vie tout à fait normale, classique, et qui ont aussi un enfant handicapé, et qui savent très très bien s'en occuper, ça nous a beaucoup rassurés. De pouvoir parler, c'est une maladie rare, donc elle touche en général une naissance sur 100 000. D'avoir la chance d'avoir cette association-là, à laquelle Morgane a donné une visibilité incroyable. En fait, ça permet de réunir plein de mamans. Il y a aussi des papas, mais beaucoup les mamans. Je discute avec beaucoup de mamans un peu tous les jours.
Ouais, c'est un lien.
C'est un lien qu'on peut créer avec personne d'autre, en fait.
Bien sûr.
Puisque même notre famille et nos amis, ils ont beau nous voir au quotidien, savoir à peu près ce que ça implique. Avoir son enfant malade, c'est quelque chose qu'on partage avec très très peu d'autres personnes, de cette maladie-là en plus. Donc c'est une vraie force et ça peut aussi beaucoup rassurer. Et il y a aussi, pour le coup, des gestes de premier secours, on va dire, que j'ai préféré demander à Morgane et à Vanessa plutôt qu'en appelant l'hôpital.
Oui,
voilà.
Ouais, je comprends. Et aujourd'hui, du coup, vous avez un deuxième fils.
Mm-hmm.
Quel a été le chemin pour cette décision d'avoir un deuxième enfant ? Est-ce que vous y pensiez ou...
Alors, on y pensait parce que, oui, de toute façon, une fois lancé, je m'étais dit effectivement que moi, j'ai une très belle relation avec mon grand frère. Donc je voulais aussi que Lou puisse avoir un petit frère ou une petite sœur. En fait, on s'était lancé très très vite après l'annonce de la maladie, puisque je suis tombée enceinte une première fois deux mois après l'annonce de la maladie. Je savais qu'il était trop tôt, concrètement, mais je crois que c'était un instinct de survie, en fait. Il fallait absolument que la vie continue, sachant qu'on savait qu'elle allait s'arrêter pour Lou. On a placé, en fait, un espoir de mieux pour le futur. On pouvait pas imaginer un trou noir et plus rien derrière, en fait. Il nous fallait absolument la vie qui continue. Et puis, en fait, je crois que les choses sont quand même plutôt bien faites, puisque c'est une grossesse qui n'a pas continué. Il y en a eu d'autres, entre-temps. On a continué encore, jusqu'à que Charlie s'accroche. Il faut savoir que donc c'est une maladie génétique. On est porteurs tous les deux de la moitié de la maladie avec mon mari. Donc ça veut dire que pour chaque grossesse, on a le risque de nouveau, on a un risque sur quatre, que l'enfant soit de nouveau atteint. Ça a été le cas d'ailleurs, donc on a eu une grossesse où l'enfant était atteint, on savait très bien ce qu'on allait faire puisque la souffrance de Lou, sans parler de la nôtre, c'était inenvisageable pour nous de la faire revivre à nouveau et de la vivre. Et puis finalement, Charlie, au bout de 3 mois et demi, donc moi j'ai une biopsie, et puis il y a eu 15 jours d'attente pour les résultats. Donc c'est une énorme angoisse à chaque fois. Et on a eu la très bonne nouvelle. J'étais quasiment à 4 mois de grossesse, de savoir que Charlie n'était même pas porteur de la maladie. Ça veut dire que plus tard, lui n'aura pas le souci de devoir faire les tests, etc. Mmh. Il part sur une page blanche.
Oui, ça a dû être un soulagement.
Un très gros soulagement, exactement. Mmh. Et il est arrivé donc au mois d'octobre. Et c'est une force incroyable et beaucoup de lumière dans nos vies. Et là, une petite relation commence à se faire avec Lou.
Ouais.
Il est très excité quand il le voit, quand on les rapproche le plus souvent possible. Lou, ça pèse beaucoup. Il est très sensible au toucher et au bruit, mais quand c'est son petit frère, c'est assez incroyable. Il ne sursaute pas quand c'est son petit frère qui fait du bruit. Et lui, qui est souvent tendu, il est très apaisé quand on pose Charlie dans ses bras. Donc, il y a déjà, en fait, une relation vraiment particulière qui se crée entre les deux.
Vous êtes spectateur de ça.
Voilà, c'est assez magique. C'est assez magique à observer puisque Lou, il faut toujours déceler ses réactions. Pour la plupart des personnes qui pourraient voir Lou, il exprime rien. Et en fait, nous, on le connaît, on le connaît par cœur. Donc, on sait très bien que un petit froncement de sourcil, un petit mouvement du doigt ou de la main, on sait très bien ce que ça veut dire. Et pour le coup, on n'a aucun doute sur le fait qu'il a compris qui était Charlie. Il a compris aussi que maman était moins disponible. C'était ma grosse crainte, puisque Lou, avant l'arrivée de Charlie, c'était pratiquement du 24 heures sur 24. C'était beaucoup, beaucoup de contacts, beaucoup de câlins, parce que c'est... comme tous les enfants, il aime beaucoup ça, mais il en avait besoin. Encore plus qu'un autre enfant. Donc, je suis moins disponible pour lui sur ces aspects-là. Ça a été difficile à accepter et de ne pas culpabiliser aussi de vouloir un autre enfant.
Bien sûr.
Et finalement, aujourd'hui, j'arrive avec de l'aide, sinon ce ne serait pas possible, sincèrement. Avec de l'aide, j'arrive à apporter aux deux autant de tendresse et d'amour et de passer du temps de qualité avec tous les deux.
T'as l'impression d'avoir trouvé une sorte d'équilibre.
Ça commence parce que Charlie commence à trouver un rythme. Sinon, c'était un petit peu l'anarchie jusqu'à maintenant, avec de toute façon 2 enfants en bas âge, ouais. Je pense. Mmh. Et là, on commence effectivement, justement, là, Charlie, il arrive à un âge où il a des jeux d'éveil qui ressemblent à ceux de Lou, finalement. Donc, ça veut dire qu'on peut les faire jouer ensemble en ce moment. C'est ce que je m'étais imaginé depuis le départ et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça encore longtemps.
Ouais. Quel message est-ce que tu voudrais faire passer à un couple qui apprend aujourd'hui le diagnostic de son enfant? Toi, tu dis que vous aviez eu un moment avant de passer le cap de contacter l'association. Qu'est-ce que tu aurais envie de faire passer comme message?
En fait, la première info moi, que je retire de ça, c'est qu'on a des ressources insoupçonnées. Après, moi, il y a une phrase qui me rassure et que je me répète souvent, c'est que les épreuves sont envoyées à ceux qui pourront les surmonter. Donc, c'est ce que je me dis souvent. Et en fait, on est capable de déplacer des montagnes, surtout pour nos enfants, et on ne le sait pas, en fait. Oui. On ne le sait pas. Donc, de toute façon, le temps d'abattement qui suit l'annonce d'un handicap est normal. Et je pense qu'il y a des étapes à passer. Ce n'est pas la peine de se dire « c'est pas normal, je ne le vis pas bien, je dois être là pour mon enfant ». Alors oui, mais il faut quand même l'accepter en tant que parent, en tant que personne. Et ensuite, en fait, les choses vont se faire naturellement, je pense, pour tous les parents qui se retrouvent dans cette situation-là, parce que notre enfant, il a besoin de nous et on est les seuls qui pouvons vraiment le réconforter, le porter du soin, le rassurer. Et tout s'apprend. Et on s'habitue à tout. Nous, on nous avait dit que Lou allait perdre son sourire. Et on s'était dit, c'est impossible. Et à partir du moment où on perdra son sourire, on va s'effondrer et c'est pas possible. Et en fait, pas du tout. Il a perdu son sourire très rapidement, un mois après le diagnostic. Et en fait, non, aujourd'hui, ça fait un an et demi, non, deux ans qu'il a pas souri. Et puis voilà, c'est Lou, il est comme ça. Et ça nous manque pas, quoi. Voilà, on l'accepte tel qu'il est. Ça peut prendre un peu de temps selon les personnes, je pense. Mais aujourd'hui, je voudrais pas qu'il soit autrement.
Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour Anne-Sophie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre métier ?
Oui, bonjour. Donc, je suis assistante de service social, diplômée en 2008. Donc, j'accompagne donc des personnes en difficulté. Donc là, en l'occurrence, donc les personnes concernées par le handicap, en priorité par tout ce qui est donc démarches administratives, donc en lien avec les droits liés avec l'handicap, mais ça peut être aussi donc tout ce qui touche gravite autour le logement, l'accès aux droits, travailler aussi donc en réseau avec d'autres partenaires qui peuvent donc aider donc les familles avec donc d'autres questions que je n'ai pas forcément pouvoir traiter donc mais c'est un travail qui est assez varié finalement avec essayer de trouver des solutions selon les demandes, toujours faire une évaluation globale de la situation, identifier donc les problèmes, les prioriser parce qu'on peut pas tout traiter tout de suite en même temps, donc mettre en place un plan d'action et voir quelles sont donc les priorités, qu'est-ce qu'il y a donc à faire en premier et avec quel partenaire.
Et du coup, au niveau parcours professionnel, qu'est-ce que vous avez eu ? Vous avez décidé à un moment donné de vous spécialiser auprès des familles, auprès des personnes qui sont porteurs d'handicap ? Comment
non,
ça s'est décidé ?
Non, pas du tout. J'ai une licence en travail social. Donc, de base, une formation assez généraliste. On n'est pas spécialisé forcément dans un public en particulier. Donc là, c'était mon expérience professionnelle. Donc, le premier poste que après avoir été diplômée, que j'ai travaillé donc avec, là c'était des adultes en situation de handicap, donc ça m'avait bien plu. C'était pas forcément quelque chose que je cherchais, mais ça m'a beaucoup. Donc j'ai travaillé pendant presque 4 ans dans ce service, et après donc j'ai pu avoir donc le poste à Altepousse, et c'était à nouveau le handicap et qui finalement je trouve passionnant comme public et comme secteur.
La vie fait bien les choses.
Oui.
Alors l'objectif de l'association, c'est de venir en aide du coup aux familles, mais aussi oui. pas seulement aux familles. Ça passe par quoi, par quelles actions?
Alors, l'objectif premier, donc ça n'a pas changé donc, depuis la création de l'association donc, il y a 15 ans, c'est d'offrir du répit aux familles concernées par le handicap. Et le répit, c'est vraiment au sens large du terme, parce qu'on pourrait imaginer, entendre que le répit, c'est plus d'avoir donc des personnes au domicile. Mais ce n'est pas que ça. Donc moi, en tant qu'assistante sociale, moi, je peux aussi offrir du répit en accompagnant donc les personnes dans les démarches administratives, parce qu'il faut savoir que c'est très, très compliqué. Hein, c'est pas parce qu'on n'est pas capable de faire un dossier, le remplir, mais il faut savoir quels sont les droits, comment le justifier, donc, et aussi avec tout ce qu'il y a donc autour à faire déjà avec le rendez-vous libéral et le reste, donc ça peut être donc assez difficile donc à faire en plus. Donc c'est une aide administrative qui soulage, qui offre du répit. Ça peut être aussi donc des tierces personnes au domicile, donc des intervenants spécialisés dans le handicap, qui est assez rare, et aussi donc favoriser donc l'inclusion en centre de loisirs, en milieu ordinaire. Et on a aussi donc formation, mais ça c'est donc on cible donc les professionnels des crèches, mairies, aussi des centres de loisirs, donc former les animateurs, les centres de loisirs, donc pour donc mieux pouvoir accueillir donc les enfants en situation de handicap. C'est vraiment du répit dans le sens large. Mais ça, c'est l'objectif premier. Et on n'est pas spécialisé. On a fait le choix de ne pas être spécialisé dans son handicap en particulier, comme il y en a d'autres. Ça peut être l'autisme, ça peut être un handicap visuel, moteur. On n'est pas spécialisé. Enfants, adultes, même personnes donc, en situation d'handicapé, mais vieillissantes. Donc, on traite tout ce qui est répercussions, parce que les répercussions sont pareilles, peu importe du handicap. Donc, on est vraiment là pour traiter les répercussions, offrir du répit.
Est-ce qu'aujourd'hui, ce genre d'association est assez visible et assez soutenue en France ? Est-ce que, voilà, comment ça se passe en termes de visibilité, mais aussi d'aide ?
Oui, donc il faut savoir, donc, depuis la création, donc, 15 ans d'existence de l'association, avec donc, des demandes de subventions à renouveler tous les ans. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de visibilité donc, pour ça, donc c'est difficile donc, d'avoir un financement. Ça aurait été préférable d'avoir sur plusieurs années pour avoir une meilleure visibilité, pour aussi pouvoir mettre en place des actions sur une plus longue durée. Donc c'est la CAF nous a toujours soutenus. Il y a aussi donc, la métropole et la mairie, mais il manquerait, je dirais, le conseil départemental, par exemple, parce qu'on est beaucoup en lien avec plusieurs services de conseil départemental. Donc, c'est vrai que ça aurait pu être aussi donc, un financeur potentiel, mais on n'a pas encore de subvention. Donc, on est reconnu aussi partenaire, bien implanté dans ce sens-là. Mais c'est vrai qu'en termes de financement, oui, ça manque quand même un peu de stabilité. Donc, on n'est pas la seule association à être concernée par cette problématique. Et il y en a d'autres aussi, c'est pareil avec d'autres aussi, des subventions qui diminuent même.
Au-delà de la prise en charge physique, administrative, est-ce qu'il y a un soutien aussi psychologique pour les familles, particulièrement, voilà, j'imagine des familles après l'annonce d'un diagnostic. Comment ça se passe ?
Oui, alors ce n'est pas le soutien psychologique, ce n'est pas notre, en tout cas, aide principale. On peut le faire bien sûr par l'écoute. L'écoute, enfin, c'est la chose qu'on peut tous offrir, de l'écouter. Ça, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on prend beaucoup de temps aussi à faire, d'écouter les familles. En termes de soutien psychologique, on peut aussi les orienter vers, il y a des associations qui peuvent donc proposer un temps d'écoute par un psychologue qui sont donc gratuits en fonction donc du secteur où habite la famille. Si c'est par exemple l'annonce du diagnostic, bah, ça peut être aussi donc, psychologue à l'hôpital par exemple, ou un psychologue là où l'enfant peut être éventuellement pris en charge au suivi. Mais nous n'avons pas de prise en charge, on n'a pas de psychologue qui peut proposer. Donc,
Mais vous travaillez en lien, en fait.
Oui, avec voilà, c'est tout ça. Donc, ce que nous ne pouvons pas faire, on s'est toujours trouvé donc, de repérer des partenaires, les orienter vers d'autres services, d'autres, que ce soit donc, tout ce qui est service hospitalier, libéral, etc.
Est-ce que vous pensez que c'est tout aussi important, ce soutien-là psychologique, que matériel ? Est-ce que vous pensez que pour une bonne prise en charge globale, c'est indispensable ?
Oui, je pense. Et là, en termes de soutien psychologique, il y a aussi donc, de pouvoir donc, échanger avec d'autres parents. Donc, on a mis en place, donc c'est pas professionnel, mais ça a été donc, c'est un choix qui a été fait. On a un groupe de parole, c'est donc le premier jeudi soir du mois. Et il n'y a pas de professionnel, mais ça, c'était donc un choix. Donc, c'est un parent bénévole qui le gère. Et là, justement, le parole est libre. Donc, c'est important aussi de pouvoir échanger avec d'autres parents, qui ont déjà vécu peut-être la même chose, qui sont passés par là, qui peuvent conseiller. Et ça aussi, je pense que c'est aussi important que de parler avec un professionnel.
Bien sûr.
Donc, on essaie beaucoup. Et aussi, l'autre objectif, c'est de rompre avec l'isolement. Parce que c'est vrai que beaucoup de parents, enfin, familles, peuvent être donc isolées du fait du.
Complètement. Bah, c'est ce que nous disait Camille en début de ce podcast. Elle nous disait qu'elle avait mis très longtemps à contacter une association. Et en fait, ça l'avait vraiment. Ça l'aide beaucoup, même si elle a un entourage qui est très présent. Le fait d'avoir des personnes qui vivent la même chose, ça, c'est un soutien que ne peut avoir aucune autre personne, même un professionnel.
Exactement. Qui va comprendre mais à 100% ce que la personne vit. Et justement, par rapport à ça que je rebondis, le délai un peu, parce qu'il peut avoir donc, ce qu'on voit, l'annonce donc, du handicap, le diagnostic, et après, il peut avoir un peu de temps, parce que c'est même si on a connaissance, peut-être qu'ils ont une autre plaquette, ils ont vu l'affiche quelque part, mais il y a peut-être un temps entre donc, la connaissance donc, de l'association et le premier contact. Donc ça on le voit dit, oui, mais souvent on me dit, oui, mais ça faisait un an que j'avais votre numéro de téléphone, je savais que vous étiez là, mais je... Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile de faire ce premier pas, d'appeler, de contacter, pour plusieurs raisons, mais ça on le voit.
Non, mais c'est ce que nous disait ouais, Camille aussi. C'est difficile de s'affirmer être parent d'un enfant porteur de handicap. C'était aussi le réaliser, tout simplement.
Oui.
Comment est-ce que vous accompagnez, vous, les futurs adultes porteurs d'un handicap à s'intégrer dans la société au niveau professionnel? Comment ça se passe, votre accompagnement? Par des formations? Par...
Non, on n'a pas... propose pas de formation pour des, donc là ce serait donc des adultes, enfin des jeunes adultes ou qui s'approchent donc de la majorité, qui pourraient donc avoir un projet professionnel. Donc on peut les conseiller donc sur donc les différents dispositifs. C'est vrai qu'on y est aussi beaucoup à travailler tout ce qui est donc dispositifs qui ne sont pas des dispositifs du secteur médico-social. Ça peut être aussi des initiatives donc privées, associatives. Donc il y en a plusieurs sur Montpellier. Bah, malheureusement, il y en a un peu moins en dehors de Montpellier. Donc souvent il y a la question de transport qui se pose. Mais sur Montpellier, il y a aussi pas mal de choses qui des initiatives, mais qui peuvent être aussi donc un tremplin entre donc l'IME, l'école et aussi donc avoir donc le premier emploi, parce que c'est peut-être pas possible tout de suite, ou ça peut être aussi donc remise à niveau scolaire, faire un accompagnement aussi, pouvoir l'accompagner pour faire des stages, de faire connaissance, enfin donc d'expliquer qu'il existe aussi d'autres possibilités, enfin d'autres structures qui peuvent faire cet accompagnement, pas toujours rester dans le médico-social en termes de services. Établissements médico-sociaux et aussi l'ordinaire, parce que ça aussi ça fait partie des objectifs de l'association, déjà l'inclusion, mais aussi donc là il n'y a pas toujours, d'ailleurs il y a un problème de place aussi donc dans l'Hérault, enfin en France d'ailleurs, mais particulièrement dans l'Hérault, un manque de place ou des délais des listes d'attente qui sont quand même de plusieurs années souvent. Donc même si ça existe et il y a ce service là, mais s'il n'y a pas de place, donc on commence à chercher, mais qu'est-ce qu'autour de moi, qu'est-ce qu'il y a qui fait que moi je pourrais, est-ce qu'une auto-école où je pourrais m'inscrire, qui peut donc accompagner quelqu'un qui a par exemple des troubles de l'attention par exemple, ou d'autres choses qui peuvent donc faciliter, donc amener, donc s'inscrire dans son projet professionnel. Donc c'est aussi donc tout ce qui est milieu ordinaire, mais aussi la mise en place un peu des parcours un peu atypiques.
Ouais.
Il faut les connaître. Donc, c'est ça. Donc, nous, notre rôle, ça peut être donc de les informer sur les différentes possibilités. Et avec, bien sûr, l'accompagnement qu'on peut faire, c'est de rédiger, enfin, de les aider à instruire le dossier MDPH, à avoir des droits ouverts à la MDPH qui permet ensuite de faire donc réaliser ce projet et donc mise en relation avec les partenaires nécessaires.
D'accord. Bah, merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté le Nid. Vous retrouverez toutes les informations de ce podcast dans la description. N'hésitez pas surtout à nous noter et à nous faire tous vos retours. On a hâte de lire vos commentaires et moi je vous dis à très vite dans un prochain épisode.